14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Quand on a un voyou comme ça, qui a un minimum de tenue, qui est agréable, avec qui on peut parler, et puis qui a un palmarès pareil, on est content d'échanger. C'est un beau voyou, un beau mec, comme on dit dans le jargon policier. C'est surtout qu'on considère que ce sont des voyous, d'abord, qui ont un palmarès criminel qui se tient, et puis c'est aussi des types qui se tiennent droit quand ils sont interpellés.
Bonjour, il se prénomme Antonio, mais il y a belle lurette que tout le monde l'appelle simplement Nino, le roi de l'évasion. Dans l'histoire contemporaine du crime organisé, Antonio Nino Ferrara est une exception, une espèce de mélange de bandit d'honneur et de criminel ultra chevronné. Il reste évidemment le personnage central de la plus spectaculaire évasion jamais réalisée dans une prison française et même peut-être dans le monde. La fuite dans un déluge de feu et de bruit de la prison forteresse de Fresnes à l'hiver 2003. Un coup de maître, la Joconde des évasions, s'exclamera même un policier admiratif. Ainsi, il n'aura fallu qu'une poignée d'années pour que Antonio Ferrara accède au grand banditisme et s'y fasse un nom. C'est cette trajectoire unique que je vous raconte aujourd'hui. Avec nos invités, nous allons voir comment un petit voyou de banlieue a longtemps fait tourner en bourrique les policiers, a gagné ses lettres de noblesse au son des explosifs, jusqu'à devenir l'une des personnalités les plus respectées du milieu.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la trajectoire incroyable d'Antonio Ferrara, ce braqueur de fourgons blindés, déjà fiché au grand banditisme, va devenir à jamais, à la fin de l'hiver 2003, le roi de l'évasion. Ce 12 mars 2003, vers 4h15 du matin, le gardien du Mirador numéro 4 de la prison de Fresnes entend des portières claquer à l'arrière du bâtiment dans la rue Jean Moulin. Un bruit inhabituel à cette heure-là. Damien Delmotte aperçoit une, puis deux, puis trois silhouettes, bientôt 12. Des hommes cagoulés, certains portent des brassards de police. Le surveillant n'a pas le temps de réfléchir qu'une pluie de balles frappe les vitres blindées du Mirador. Il s'accroupit, téléphone pour donner l'alerte. Dans le Mirador numéro 3, sa collègue, la surveillante Dominique Prado, est elle aussi sous le feu. Un projectile a frôlé son crâne, tellement de tirs qu'elle pensera un moment que le Mirador allait s'effondrer. 84 impacts de Kalachnikov seront décomptés. Alors que roule le tonnerre de feu, un homme fait exploser une porte blindée qui sert aux livraisons, un passage par lequel s'engouffrent deux ou trois personnes. Des lueurs oranges illuminent le petit matin. Le commando a mis le feu à des voitures garées autour de la prison pour créer une diversion. Deuxième explosion massive avec un pain de plastique à l'entrée du quartier disciplinaire cette fois, un petit bâtiment isolé dans l'enceinte de Fresnes. Dans la fumée, un homme en jean et t-shirt en sort, c'est un détenu. Il court avec ceux qui l'ont libéré le long du mur d'enceinte, puis franchit la dernière porte défoncée. Il saute dans une Audi, un convoi de trois voitures démarre en trombe. La prise de Fresnes n'a duré que 7 ou 8 minutes. Le détenu évadé s'appelle Antonio Ferrara. Dans les heures qui suivent l'attaque de la prison, la consternation règne. Le ministre de la Justice de l'époque, Dominique Perben, est sur place. Jamais une attaque d'une telle ampleur a frappé une maison d'arrêt française. Le genre de scène réservé à quelques prisons en Colombie ou au Mexique pour faire évader un baron de la drogue. C'est une humiliation, les policiers sont eux aussi sous le choc. Le gros poisson que le commando est venu chercher est Antonio Nino Ferrara, presque 30 ans. Il n'est autre qu'un braqueur expérimenté de fourgons blindés. Il a certes déjà un solide palmarès, mais les enquêteurs ont peut-être un peu sous-estimé son importance. L'opération de Fresnes, une opération quasi-militaire, démontre dans tous les cas que ce Ferrara est précieux et qu'il peut mobiliser une petite armée pour voler à son secours. Son nom est désormais célèbre. Il est le deuxième homme le plus recherché de France après Yvan Colonna, le berger corse de Cargèse soupçonné d'avoir abattu le préfet Erignac. L'évasion de Fresnes ne peut pas rester impunie. La police met un point d'honneur à le retrouver. La brigade de répression du banditisme, la BRB et l'OCRB, travaillent de concert sur le dossier Ferrara. La police scientifique s'affaire dans l'enceinte de Fresnes et ses deux miradors truffés d'impacts de gros calibre. Des tirs qui ont même fait éclater une vitre blindée. Un pistolet est retrouvé près du mur d'enceinte, mais il ne donne pas d'indice. Les déflagrations sur les portes blindées sont beaucoup plus intéressantes. On a employé ici la technique du cadre explosif. Un cadre de métal bourré de plastique collé contre la paroi. Un travail de pro. Il y a du sang près d'une porte. L'artificier s'est sans doute blessé. Dans sa cellule, Ferrara a oublié un blouson qui contient un téléphone portable. Son exploitation est fructueuse. Le Samsung de Nino a été appelé par erreur à 4h28, alors qu'il venait de s'évader. On y entend une conversation captée dans la voiture des fuyards. Ferrara s'adresse à un certain Doumé qui est blessé et dit avoir perdu un œil dans cette histoire. Les fuyards citent le nom de Karim Achoui, l'avocat de Nino Ferrara. Peut-être connaît-il lui un médecin. C'est le tout début d'une très longue enquête. Et on verra dans les chapitres suivants de cette heure du crime ce qui va advenir de cette folle cavale de Antonio Ferrara. Un mot déjà sur cette incroyable évasion. Avec vous, Frédéric Ploquin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, auteur d'un livre que je recommande à tous nos auditeurs, qui est passionnant et palpitant. Ils se sont fait la belle aux éditions La Mécanique Générale. Et c'est un bouquin qui vient d'être tout juste réédité. Encore une fois, il faut le lire, c'est tout à fait instructif. Alors justement, Frédéric Ploquin, un mot sur cette évasion. Parce que là, on est dans le spectaculaire, c'est Hollywood, il n'y a pas d'autre mot. Elle reste encore, cette évasion, un modèle du genre aujourd'hui.
Oui, écoutez, pour ce livre, effectivement, j'ai épluché toutes les évasions qui ont eu lieu en France depuis une trentaine d'années. Et à la fin, j'ai eu envie de dire, dis-moi comment tu t'évades, je te dirai qui tu es.
Ah, très bien.
Et je trouve qu'effectivement, les évasions ressemblent finalement aux voyous qui s'évadent toujours. Alors vous avez les séducteurs, vous avez ceux qui vont jouer à fond, je sais pas, la carte d'une maîtresse laissée à l'extérieur qui va apprendre à piloter un hélicoptère. Vous avez les rusés, les malins, les bricoleurs, ceux qui arrivent à fabriquer une clé en savon, ceux qui arrivent à disons, saisir, parce que il faut beaucoup d'opportunisme aussi, à saisir l'opportunité qui se présente. Par exemple, un ouvrier à un moment donné qui oublie une échelle sur un mur, ou un surveillant qui oublie une clé quelque part. Vous avez tous les ressorts sont possibles, mais le principal, quand même, pour un grand voyou, parce que ce sont rarement les petits voyous qui s'évadent, c'est le fait d'avoir des amis à l'extérieur, de savoir pouvoir compter sur des gens qui vont quand même, excusez du peu, risquer leur vie pour vous.
Complètement. Alors là, c'est la clé de voûte dans cette histoire.
Là, c'est la clé.
Les amis.
Absolument, c'est la clé. C'est-à-dire que tout le monde, tous les grands voyous n'ont pas autant de gens capables à l'extérieur de se mobiliser à un moment donné pour venir les chercher. C'est pas vrai, ça. Il y en a qui peuvent compter sur 2-3 amis, sur la famille. Mais là, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il y a une douzaine d'hommes qui vont risquer leur peau pour venir le chercher. Et bon, ça en fait une évasion totalement extraordinaire et hors de la norme, de l'ordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que d'habitude, on attaque la prison et les portes de la prison de l'intérieur. Et là, vous avez une double attaque simultanée.
De l'extérieur, oui.
Vous avez le voyou qui, dans sa cellule, a suffisamment d'explosifs qu'on lui a livré pour faire péter la porte.
Je ne l'ai pas raconté, Frédéric Ploquin, mais effectivement, il y a eu Ferrara dans sa prison, il fait exploser lui aussi sa porte.
En fait, c'est une opération simultanée où la prison est attaquée de l'intérieur comme ça se fait d'habitude, mais là, en plus, elle est attaquée un peu comme à l'époque des cow-boys et des indiens, les indiens qui attaquaient comme ça les centres forts. Elle est attaquée de l'extérieur et c'est ça qui en fait une opération exceptionnelle. Il y a eu déjà des voyous qui avaient eu cette idée, mais personne n'avait réussi à passer à l'acte. Et là, c'est simultané, c'est pour ça que dans sa cellule, Antonio Ferrara dispose d'un téléphone portable et d'explosifs et de détonateurs.
Qui était caché, hein, les explosifs.
Qui était dissimulé. Il s'était fait transférer dans cette cellule non loin de du mur d'enceinte la veille ou l'avant-veille. Donc là, ça demande quand même. C'est un peu une opération commando. Moi, ça me fait penser, cette attaque de la prison de Fresnes, en fait, elle est faite par des gens qui ont l'habitude de braquer des fourgons blindés. Et pour moi,
La méthodologie est la même.
L'opération est pensée comme une attaque de fourgons blindés. C'est-à-dire, on a des armes lourdes, on a des grenades, on tire pour neutraliser, a priori pas pour tuer, parce qu'on essaie de... Et on va chercher le butin, sauf qu'en l'occurrence, le butin, c'est un homme qui... Alors, pourquoi ? Pourquoi alors, se sacrifier pour lui?
Alors ça, on va le voir, évidemment, on a le temps d'en parler dans cette heure du crime, mais quand même un petit mot, encore Frédéric Ploquin. Cette évasion, elle sacre Ferrara, on ne peut pas dire autrement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce gars-là, il vaut de l'or.
C'est vrai que quand un voyou s'évade, moi j'ai observé qu'il changeait systématiquement de dimension. Il change de dimension auprès des médias, du grand public, il se fait connaître, premièrement, il se fait un nom, on pense à Mérine, on pense à plein d'autres, il se fait un nom d'une part auprès du grand public et aussi auprès de la police. Parce que Antonio Ferrara, à cette époque de sa vie, il est déjà connu un peu de la police. Mais il a commencé à 17 ans, il n'intéressait pas les grands services de police.
Oui,
après, il est arrivé à 25 ans, il était passé, effectivement, des vols de banquette arrière de Renault 5 à l'attaque de banque. Et là, il a commencé à intéresser la brigade de répression du banditisme. Et après, l'office central de répression du banditisme. Donc là, il intéresse tout le monde. Et le jour où le voyou parvient à s'évader, effectivement, d'une certaine manière, il devient une forme de star. Pourquoi ? Parce que même le grand public, dans un premier temps, moi j'ai remarqué ça, même le grand public, si vous faites un micro-trottoir après, disons, 5 minutes, 10 minutes après l'évasion d'Antonio Ferrara, vous allez être surpris. Même parmi les policiers, même parmi les surveillants, vous allez avoir des gens qui vont se déclarer admiratifs du geste.
Et c'est ça.
Dire,
mais oui,
ah,
mais
ouais,
ça, c'est...
ah ouais, le geste là, surtout s'il n'y a pas mort d'homme. Hein.
C'est toujours le panache, ça. Hein.
S'il y a mort d'homme, c'est autre chose.
Voilà, bien sûr.
Mais s'il y a prise d'otage,
là,
c'est autre chose.
Cela dit, en l'occurrence, la gardienne qui était dans le Mirador,
elle a eu peur.
Elle a vu la mort. Hein.
Elle a vu la mort. Mais au final, il n'y a pas mort d'homme. Il y a un blessé, mais du côté des assaillants.
Nino Ferrara est dans la nature, la police est à ses trousses et la justice bien décidée à laver l'affront de la prison de Fresnes. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que le braqueur se fait la belle. Avant que son nom ne fasse la une des journaux, Nino Ferrara était loin d'être un inconnu des policiers. Cela fait une dizaine d'années qu'il fait parler de lui. Grandi dans la cité Gabriel, à Choisy-le-Roi, en banlieue parisienne, ce fils d'immigré italien a vite basculé dans la délinquance. À 22 ans, il est en fuite. On le recherche dans une affaire de deal de drogue qui, en fait, ne le concerne pas. On l'accuse ensuite d'avoir grièvement blessé un malfrat dans une chambre d'hôtel. Puis, on l'identifie sur la bande de vidéosurveillance d'une agence bancaire de Soisy-sur-Seine, ce 10 avril 1997, avec un complice, il s'est fait ouvrir le coffre et a emporté 20 000 francs. 3 semaines plus tard, un policier le retrouve, par hasard, en plein Paris. Il a tout de suite reconnu cet individu qui ne mesure pas plus d'1m66, physique nerveux, et puis ce nez qui lui a valu le surnom de « la pioche ». Ferrara est écroué à Fleury-Mérogis. Il va y rester seulement un an. Le 7 août 1998, le détenu prétexte des douleurs aux pieds. Il est amené à l'hôpital de Corbeil-Essonne. 3 hommes cagoulés surgissent alors dans la salle d'attente de neurologie. Les 4 surveillants sont aspergés de lacrymogène. Première évasion réussie de Nino Ferrara. Après avoir pris la fuite, celui qui n'était jusque-là qu'un braqueur de moyenne envergure va savoir séduire les pontes du grand banditisme. On loue son courage, sa loyauté, son intelligence. La police n'établira que bien plus tard que Ferrara, à cette époque, fréquentait le milieu corse, l'équipe de la fameuse Brise de Mer, un gang spécialisé dans les braquages de haut vol et notamment l'attaque des fourgons blindés. C'est avec la Brise que Nino aurait appris l'art des explosifs jusqu'à être considéré comme un excellent artificier par certains enquêteurs. Vraie ou fausse réputation, la légende Ferrara est en route. Pendant ces 4 années de cavale, on va deviner sa signature derrière une série d'attaques de transport de fonds. Il démentira toujours y avoir participé. 5 mai 2000, 14h30, un fourgon de la société Ardial est bloqué en plein centre de Nanterre, rue Volant. La fusillade est brève, 17 balles transpercent le blindage, un convoyeur tué, un deuxième blessé, le troisième en état de choc. 11 millions de francs envolés, 26 décembre 2000, un fourgon de la Brinks attaqué de la même façon, porte de Gentilly, 41 millions de francs. Les voitures des assaillants étaient équipées de gyrophares de police. 23 novembre 2001, nouvelle attaque à Toulouse, ratée cette fois. Les convoyeurs ont réussi à se dégager. Antonio Ferrara intéresse alors au plus haut point les policiers. Après l'attaque de la porte de Gentilly, on a retrouvé son empreinte dans une planque du commando, un pavillon de Paray vieille poste, sur une canette de bière, sur un verre et sur un chargeur de Kalachnikov. Les enquêteurs travaillent d'arrache-pied sur la téléphonie. Ils parviennent à croiser divers numéros repérés sur les lieux des braquages et peu à peu à tirer le fil qui conduit à Nino. Celui-ci appelle notamment Mylène, une jeune femme dont il est tombé amoureux en 1999 et qui est devenue sa compagne, Mylène, qui travaille alors à la sécurité d'Orly, est identifiée. Les policiers en planque à Orly aperçoivent Ferrara sur une moto. Il est venu chercher sa compagne, mais ils se méfient. Ils ne peuvent pas intervenir. Partie remise, 13 juillet 2002. Ils l'attendent à la sortie d'un immeuble, Datis Mons. Il prend la fuite, mais il est plaqué au sol. Sur lui, un pistolet automatique 9 mm, chargeur plein. Chez lui, 28 000 euros en liquide et le plan détaillé d'une attaque de fourgon. Il est incarcéré à Fresnes, d'où il s'évadera donc un an plus tard. Frédéric Ploquin, auteur du livre « Ils se sont fait la belle » aux éditions de la Mécanique Générale, et aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime. On a là la construction, j'allais dire presque parfaite, mais très rapide, ce qui est frappant, d'un braqueur chevronné, d'un bandit chevronné.
Absolument, mais en vous écoutant, je me dis que ce qui fait sa force fait aussi sa faiblesse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il faut s'attarder 2 minutes sur la personnalité de ce garçon. Parce que c'est extrêmement important pour expliquer ce qui va se passer par la suite. C'est quelqu'un de jovial, Antonio Ferrara. C'est un fêtard, un octambule. Mm-hmm. Il aime faire la fête. Il est plutôt sympathique, toujours souriant. Et même quand les policiers l'arrêtent au terme d'une cavale où il peut être sur les dents, il les regarde, il pose en souriant sur les photos.
Oui, c'est un client sympa.
C'est un client sympathique, même pour les policiers. Puis il leur dit, de toute façon, sans phare et sans se cacher, de toute façon, vous inquiétez pas. Tôt ou tard, je m'évaderai à nouveau. Enfin, il est un peu fanfaron comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qui va lui jouer des tours au terme de cette cavale, puisque les policiers vont avoir des échos comme quoi il fait la fête. Il monte sur les tables dans des discothèques du côté de Saint-Tropez.
On va y venir.
Voilà, c'est à la fois son point faible et son point fort. C'est-à-dire qu'effectivement, ce côté sympathique fait que il a pu construire une véritable équipe autour de lui. Alors ça commence par la famille, il a des frères. 2 aînés, 3 plus jeunes. Il est né dans la banlieue de Naples. Il est arrivé en région parisienne, en banlieue parisienne, dans les années 80 avec ses parents. Son père vendait des pizzas.
Il parle même pas français d'ailleurs.
Il parlait pas français. Son père vendait des pizzas. Sa mère a commencé à faire le ménage. Et lui, il a commencé petitement. Et puis, petit à petit, il grandit grâce à cette aura qu'il a autour de lui, à cette personnalité.
Il a du charisme incroyable.
Et donc, il va se retrouver, quand les policiers vont découvrir qui il est, ce sera trop tard d'une certaine manière. Il est un petit peu l'incarnation, le prototype du nouveau grand banditisme français. Il côtoie la jeune génération de voyous corses, une jeune génération du 93, de voyous du 93, qui vont former l'ossature du nouveau grand banditisme et remplacer les anciens.
C'est ça, ouais, c'est la relève.
Un espèce de fleuron, il fait la jonction entre les générations, il fait la jonction entre le milieu des cités et le milieu d'avant, parce qu'il est accepté des deux côtés, justement. C'est ça qui fait sa force.
Alors ça, c'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, il fait le trait d'union entre plein de générations, les vieux, les jeunes, etc. Et tout le monde le trouve sympathique. Il passe partout, c'est vraiment un type qui est fréquentable, comme on peut dire. Tout de même, arrêtons-nous, Frédéric Ploquin, une seconde, quand même, les Corses, la brise de mer, là, on a l'impression qu'il fait son éducation. Dans ces années qu'on connaît pas, d'ailleurs. Il y a quelques années, vraiment, il passe sous les radars, Ferrara.
Alors, il ne connaît pas, il ne rencontre pas les anciens, les pionniers de la brise de mer. La brise de mer, c'est une bande qui est créée à Bastia au début des années 80 par une dizaine de copains, beaucoup de frères d'ailleurs, plusieurs fratries. Et lui,
qui fréquente le même bistrot.
Qui s'appelle la brise de mer. La brise de mer, exactement. Et qui va s'installer et devenir, en gros, on va dire, les principaux braqueurs sur la scène hexagonale pendant un certain nombre d'années. Et lui, il va rencontrer la génération qui vient après. Des jeunes qui ont son âge. Lui, il est né en 1973. À Naples, comme je le disais. Donc il a 25 ans, il rencontre effectivement les héritiers déjà un peu de la brise de mer. Donc c'est là on parle de Dominique Battini, qui est celui qui va se blesser et perdre un œil dans l'artificier, qui va perdre un œil dans l'attaque, comme il va laisser un œil. Je veux dire c'est pas rien, même symboliquement.
Ouais, il laisse un œil. Il dit d'ailleurs sous ses écoutes, moi dans cette histoire, j'ai perdu un œil, mais on a l'impression qu'il dit ça comme il dirait j'ai perdu mon portefeuille.
Il a donné un œil à la liberté parce que c'est ça pour ces voyous, il faut quand même se représenter quelque chose.
Alors, je ne vais pas faire dans les clichés, mais on est un petit peu encore dans le code d'honneur, là. C'est ce qu'aiment les policiers chez Ferrara, d'ailleurs.
Il y a ça, mais il y a aussi ce sens inouï. Moi, dans toutes ces histoires d'évasion que je raconte, j'arrive à cette conclusion que la liberté pour ces voyous n'a pas de prix. Ils sont prêts à absolument tout pour aller respirer dehors, pour aller retrouver la bouteille de champagne, les maîtresses, cette vie. Parce qu'au fond, pourquoi est-ce qu'ils braquent pour faire de l'argent? Pourquoi ils font de l'argent? C'est pour le craquer, pour vivre. Rarement, ils investissent, ces braqueurs. Et donc, c'est cette vie après laquelle il court. Et donc, eux, ils ont soif avec lui de cette liberté. Donc, j'ai redécouvert le sens du mot liberté en écrivant toutes ces histoires d'évasion, parce que c'est quand même extraordinaire. L'énergie que met l'énergie, l'obsession de la liberté qui habite ces types. Ouais. Du jour où ils rentrent en prison, là, je parle des grands voyous, hein, on les met en plus dans des conditions carcérales plus dures que les autres, dans des quartiers d'isolement. Ils ne cessent d'avoir envie de casser la porte, de sortir par les airs, par le ciel, par n'importe quel moyen, ou par la terre, ou par un souterrain.
Effectivement, il y a même cette parole que quand un juge lui dira « Monsieur Ferrara, qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir ?» il dira « Me casser le plus vite possible ». Donc voilà, il a déjà cette obsession toujours de
brûler la vie.
De s'enfuir. Encore un mot, Frédéric Plouguin. Ouais. Comment se passe la détention de Ferrara à Fresnes ? On sait que par
l'époque,
il ne va pas y rester longtemps, mais là aussi, l'administration pénitentiaire est plutôt contente d'avoir ce genre de...
À l'époque, comme il s'est déjà évadé une fois, comme vous le racontiez, bon, on le suspecte, on le surveille davantage. Mais effectivement, et ça compte énormément, le côté séducteur va lui permettre, y compris de séduire autour de lui, au sein de l'administration pénitentiaire, mais c'est pas le seul. Les voyous sont tous, presque tous, il y en a, sont d'affreuses têtes de mule, mais la plupart sont de formidables séducteurs. Ils passent leur temps à circonvenir, à penser qui corrompre, comment, à détecter les failles, les faiblesses chez les surveillants, et là c'est ce qui va se passer. Il va donner le nom d'un surveillant à des amis qui sont dehors, ils vont aller attendre ce surveillant à la sortie d'un restaurant, ils vont ensuite le prendre en main, si j'ose dire, lui promettre monts et merveilles. Et il y a ce sens comme ça qui passe effectivement par le côté séducteur de ces hommes, qui ont en plus les moyens.
On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre.
Absolument. Hein.
C'est tout à fait ce qui convient à Ferrara.
Exactement.
Une fois évadé de Fresnes, Antonio Ferrara retrouve l'air de la cavale. Il espère que celle-ci sera aussi longue que la première. Il a de nombreux amis, de l'argent, de fidèles protecteurs. Mais là encore, le téléphone va lui jouer des tours. Lors de sa première cavale, Antonio Ferrara avait échappé aux policiers pendant 4 ans. Cette fois, ils espèrent que cette deuxième éclipse sera plus brève. Ils misent gros sur la téléphonie et reprennent leur travail de fourmi en explorant des milliers de connexions. Nino a alors complètement modifié son apparence. Il a décoloré ses cheveux, il se fait appeler Max et passe la plupart de ses nuits dans des clubs et des boîtes. Il a pris ses quartiers sur la Côte d'Azur, à Saint-Raphaël. Il a les poches pleines, prétend travailler dans le textile, séduit tous ceux qui rencontre avec son humour et son bagout. Un témoin dira l'avoir vu attabler avec Bruce Willis et Claudia Schiffer. Ferrara passe des coups de fil et finit par être localisé dans la petite cité balnéaire du Var. Les policiers foncent sur place mais ne le trouvent pas. Ils l'ont raté. Ils vont patiemment attendre qu'il se manifeste à nouveau. 4 mois après l'évasion de Fresnes, les enquêteurs parviennent à localiser Ferrara. Les écoutes téléphoniques ont donné de précieuses indications. Il a rendez-vous à Paris avec un certain Julio, en fait le dénommé Hamid Akar, un évadé lui aussi, figure du trafic du stup. Le 10 juillet 2003, les policiers sont en planque. Ils suivent Akar jusque dans le 15e arrondissement, dans un bar rue de la Convention. La petite terrasse est bondée. Ferrara, Akar et un troisième homme sont au milieu du public. Hors de portée. Nino Ferrara a alors un pressentiment. Le trio quitte précipitamment les lieux à 3 sur une moto roulant en sens interdit. Un coup pour rien, même si les 3 hommes sont vite repérés dans un café du 12e arrondissement, le Peanuts Café. Le patron de la BRI en personne, le commissaire Christophe Molmy, plaque au sol Ferrara, porteur d'un pistolet Tokarev 7.62. Encore vous, s'exclame le fugitif.
Ils sont au fond à gauche. Donc équipe de gauche, moi je suis à droite, les voit au fond. Les deux premiers n'ont même pas le temps de réagir, ils sont foudroyés, ils sont interpellés immédiatement. Et Ferrara, qui a vraiment de l'instinct, il saute de son tabouret, il part en courant, il essaye de sortir de l'autre côté par l'autre porte et il percute la deuxième équipe qui est en train de rentrer. Il se trouve que moi je suis devant, donc comme il me fonce dessus, et il faut bien l'arrêter. Donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de lui mettre un coup de poing. Et ça permet de le stopper et aux collègues de l'interpeller, mais il était sûrement trop appuyé puisque je me suis cassé un métacarpe.
La garde à vue, sans surprise, ne donne rien. Nino est parfaitement décontracté. Il apparaît bronzé et souriant sur les images tournées par les télés à la sortie du quai des Orfèvres. Évidemment, la voix qu'on vient d'entendre, Frédéric Ploquin, c'est celle de Christophe Molmy, hein, l'homme qui finalement, physiquement, a bloqué Ferrara et cette fois l'a arrêté, on va le voir d'ailleurs, l'a arrêté définitivement. Là, c'est la fin de partie pour Ferrara. Il prend la direction de Fleury Mérogis. Je suppose qu'après deux évasions, vous qui avez écrit un livre là-dessus, Ils se font la belle, c'est le titre de votre ouvrage, je suppose qu'après ces deux évasions, il est surveillé comme le lait sur le feu, Ferrara.
Mais ça, c'est toute la difficulté. Quand vous vous êtes évadé une fois, vous avez forcément envie de vous évader une seconde fois parce que les conditions carcérales qu'on vous fait subir sont pires que celles que vous aviez connues la fois précédente. Ça change pas grand-chose parce qu'au fond, je veux dire, dans sa tête, Nino Ferrara, comme la trentaine de voyous dont je parle dans ce livre qui se sont évadés dans sa tête, en gros, rester en prison, c'est mourir. Rester en prison, c'est la mort. Et il n'y a pas 36 solutions quand vous êtes là. Soit vous... Il y en a qui choisissent l'option médicamenteuse. Alors, ils se shootent des médicaments, ils fument des joints toute la journée. Et il y a les grands voyous qui disent, non, attendez, moi je vais ressortir. Donc, effectivement, là, quand il revient en prison, il va subir une espèce de double prison.
Ses avocats vont dénoncer ça.
Absolument.
C'est très compliqué pour lui. Plein de gardiens.
C'est un peu faut s'y attendre. C'est un peu logique. Celui qui s'évade, il sait que quand il va être pris, je veux dire, au fond, une humiliation, c'est quand même si au départ, ils peuvent être un peu admiratifs sur l'adresse de celui qui s'évade, au fond, c'est quand même une humiliation. Mmh. En plus, il faut rappeler qu'à l'époque, en 2003, lorsqu'il s'évade, nous avons pour ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy au sommet de sa gloire, et que pour lui, il en a fait aussi de cette arrestation une affaire politique. C'est-à-dire qu'il faut rattraper.
Et Dominique Perben à la justice aussi. Hein,
absolument. Donc, quand vous. C'est un peu, moi, ça me rappelle. Vraiment, je ferais volontiers le pendant entre Jacques Mérine et Antonio Ferrara. Mmh. C'est-à-dire que avec cette façon d'humilier le politique et de forcer le politique à faire trop plus, de provoquer, Mérine faisait ça et d'une certaine manière, bon, Ferrara il le fait pas, c'est pas un politique, mais la façon dont il s'est évadé, c'est un tel pied de nez à l'administration qu'effectivement, quand vous revenez en prison, normalement vous en prenez plein la gueule, pardonnez-moi l'expression. Sauf que là, c'est Antonio Ferrara, que encore une fois, il doit gérer. D'ailleurs, il a géré, il s'est jamais réévadé. Mmh. Aujourd'hui, il a 48 ans, il est père de famille, il est toujours en prison. Hein.
Oui.
Mais il est devenu un autre homme. Il a choisi de ne pas se réévader.
Un mot très court. L'enquête policière, elle est incroyable. La téléphonie, là, ils ont vraiment mis le paquet.
Mais l'erreur initiale, il y a toujours. Les voyous font toujours des erreurs. L'erreur initiale, c'est quand Antonio Ferrara, il est dans sa cellule. C'est lui-même qui utilise une masse explosive importante pour casser les barreaux pour sortir.
À Fresnes.
Et il est forcément un peu estourbi par l'explosion, parce que une cellule, c'est tout petit. Il y a une espèce de donc il est estourbi et il va oublier
le téléphone
qui lui a permis de se coordonner avec ceux qui long à l'extérieur, et je termine là-dessus, à l'extérieur, il y en a un qui va appuyer sur la touche rappel sans faire exprès, et là, les policiers vont avoir une base de travail, et ils vont remonter à un magasin de téléphonie et trouver des téléphones au nom de Alice Sapritch, au nom de Richard Virenque, au nom de Fernandel, et se dire, tiens, peut-être que là, on a quelque chose qui commence à être sérieux.
C'est possible. Antonia Ferrara est cette fois sous bonne garde, le prisonnier le mieux surveillé de France. C'est sous haute protection qu'il va comparaître 3 ans plus tard pour une très longue série de procès. Le 6 février 2006, Nino Ferrara comparé une première fois pour des faits anciens de vol et de tentative d'homicide sur des policiers. Il écope de 15 ans de prison. Deuxième procès le 17 novembre 2006. Cette fois, on le juge pour l'attaque du fourgon de la Brinks, 6 ans auparavant, porte de Gentilly. 11 ans de prison. L'addition n'est pas terminée. Le vrai procès de Ferrara, celui de l'évasion de la prison de Fresnes, une histoire appartenant désormais à la légende du crime, s'ouvre le 2 octobre 2008. Le braqueur fait une entrée remarquée. Lourde escorte de policiers cagoulés, rue bloquée, hélicoptère pour surveiller le convoi, nouveau box à l'épreuve des balles, procès prévu pour durer 2 mois. Dès le premier jour, Nino Ferrara disculpe les 21 hommes jugés à ses côtés. Seul l'artificier blessé, à un œil, Doumé, Dominique Battini, admet sa participation. Nino Ferrara ne reconnaît rien et amuse la galerie. Quand on lui demande d'où viennent les 1 200 € en pièces découverts chez lui, il répond « Je faisais les parcs-maîtres ». Quand on le questionne sur le financement de sa cavale, il dit « Ouh, ça c'est une question qui sent les menottes ». Sur le téléphone trouvé dans sa cellule, c'est un pigeon voyageur qui a dû l'emmener. 6 novembre 2008, après un mois de procès, une bousculade s'empare du box des accusés, tentative brouillonne de faire reporter le procès. La présidente de la cour, Jeanine Drey, demande à Ferrara d'intervenir pour que cesse le désordre. Le braquaire ramène tout le monde au calme, sans se douter qu'il vient de passer ainsi pour un authentique meneur. Un vrai patron qui a de l'autorité. L'accusation ne va pas manquer de se servir de cet incident d'audience. Antonio Ferrara est condamné à 17 ans de prison pour l'affaire de Fresnes, la plus lourde peine jamais prononcée pour une évasion. L'un de ses avocats, maître Lionel Moroni, dénonce alors un règlement de compte, Nino Ferrara étant selon lui une pure création des services de police. Alors voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de citer cette phrase de maître Moroni parce qu'elle est belle, une pure création des services de police. C'est peut-être pas tout à vrai, mais
on aurait pu ajouter et des journalistes.
Et des journalistes,
voilà,
évidemment, puisque les journalistes ont toujours besoin
largement contribué
de légendes et de mythes pour nourrir notre métier. Frédéric Ploquin, est-ce qu'il paye lors de ce procès, qui est le procès majeur, le procès de Fresnes, son affront à la justice qu'il a fait à la justice Ferrara? Parce que là, 17 ans de prison quand même, une évasion.
C'est vrai que les évasions, traditionnellement en France, les évasions entraînent assez peu d'années de prison. Il y a même des avocats qui longtemps, des avocats célèbres, qui ont longtemps plaidé le droit à l'évasion. Aussi bien Lionel Moroni que Henri Leclerc, que Jean-Yves Liénard, les plus grands pénalistes, ont plaidé le droit à l'évasion. Parce qu'en fait, ils considèrent sur un plan, c'est vrai, aussi bien juridique que philosophique, que la prison dont on ne pourrait pas sortir ne serait pas supportable. Et c'est pas complètement faux. Donc effectivement, ça s'est plaidé et on a vu... En fait, il y avait tant qu'une évasion, par exemple, sans dégâts, sans une goutte de sang, et même sans bris de porte, d'une certaine manière, parce que c'est arrivé. Moi, je raconte des évasions où, en gros, le gars, il profite du fait que la porte est ouverte, tout simplement, et qu'il y a le camion poubelle qui sort, ou il se met dans un carton, où ça se passe. Là, les peines sont faibles. Effectivement, là, sur ce coup-là, il fallait faire un exemple, parce que dans l'histoire criminelle française, il n'y a pas eu. Voilà, c'est une grande première, et donc la peine. C'est voulu à la hauteur de cet affront fait à l'État, à l'administration.
À la hauteur aussi de l'attitude qu'il a lors de ce procès, qui est totalement désinvolte et un peu hallucinante.
Oui, mais elle lui ressemble tellement. Elle lui ressemble tellement. C'est quelqu'un. C'est précisément ce qui structure sa personnalité. Mmh. C'est ça. C'est ce côté fanfaron, sympathique. Mmh. Et c'est ce qui fait qu'il tombe à chaque fois. Dans la dernière fois qu'il a arrêté, comme vous racontiez tout à l'heure, il se fait quand même. Il y a quand même une livraison d'une Porsche Cayenne 4x4 place du Trocadéro par un de ses potes. Je veux dire, c'est le genre de choses que normalement on est discret quand on est en cavale.
C'est un flambeur, mais curieusement à ses procès, bon, l'accusation est assez impitoyable avec lui. Hein, la présidente Jeanine Drey, elle va pas le rater, et ce dès le début, elle l'a dans le pif. Par contre, il y a ceux qui viennent témoigner finalement qui sont le plus sympas, c'est les policiers. Ils vont dire c'est un mec d'honneur, comme vous disiez.
Bah oui, les policiers regrettent d'une certaine manière, tous ceux qui traquent les grands voyous français regrettent qu'ils ne ressemblent pas tous à des Ferrara d'une certaine manière, c'est-à-dire des gens qui acceptent quand ils perdent qu'ils ont perdu, qui acceptent leur défaite, qui sourient, etc. Et c'est vrai que c'est pas, il a pas, ils ont pas face à eux quelqu'un qui leur crache à la gueule la haine de la police, de l'État, de la France. C'est pas ça, Antonio Ferrara.
À 35 ans, Antonio Ferrara se retrouve derrière les barreaux pour de très longues années. Après avoir été l'homme le plus recherché de France, il va devenir le détenu le mieux gardé du pays. Lourdement condamné et écroué derrière les murs de Fleury-Mérogis, Antonio Ferrara est victime de sa réputation. On le soupçonne toujours de vouloir se faire la belle. Il va donc être soumis à de drastiques conditions de détention, un hygiaphone blindé pour parler à ses visiteurs de parloir, aucune rencontre avec les autres détenus, seul à la salle de sport, seul dans sa cellule, des gardiens cagoulés pour le surveiller en permanence. Il va souvent changer de cellule et de prison au fil des nouveaux procès et des acquittements qui suivent le braquage de Gentilly, l'attaque du convoi de fond de Toulouse, l'abandon des poursuites dans l'attaque de Nanterre. Le braqueur va retrouver peu à peu un peu plus d'oxygène. Lors de son dernier procès en 2012, il déclare « Quand je serai libre, je reviendrai dans le public pour écouter vos plaidoiries ». Après l'évasion de Redouane Faïd de la prison de Réau, établissement où il était alors détenu, il mettra un point d'honneur à dire qu'il avait regagné le plus rapidement possible sa cellule. Antonio Ferrara a vu sa dernière demande de confusion de peine refusée. Il serait grand temps qu'autour de lui, le fantasme se dissipe, estime son fidèle avocat Amar Bouaou. Selon lui, Nino Ferrara, le roi de la belle, n'aurait aujourd'hui qu'une seule envie, retrouver sa compagne et leurs deux enfants, et qu'on oublie son nom, sa libération conditionnelle est fixée à 2025. Frédéric Ploquin, auteur du livre « Ils se sont fait la belle » aux éditions de la Mécanique Générale. 2025, c'est la date arrêtée aujourd'hui, je crois, exacte de la libération possible d'Antonio Ferrara. Qu'est-ce qu'il devient en prison ? On a l'impression qu'il est d'une discrétion absolue.
Au départ, on peut dire qu'il a été traité comme il le souhaitait, c'est-à-dire comme une star. Il est devenu le détenu le plus cher de France, au départ, provisoirement. On a dû lui aménager une cellule pour lui, on paye du personnel, beaucoup de personnel pour le surveiller. Donc, quand vous êtes évadé de cette façon-là, vous êtes aussi protégé et surveillé que le trésor de la Banque de France. Donc, d'une certaine manière, ça doit flatter l'ego du voyou d'être traité de cette façon-là. Après, il était tellement surveillé que j'ai une anecdote comme ça. À un moment donné, quelques mois après son arrestation, il se met à commander à outrance. Il commande 17 boîtes de 6 œufs pendant un mois et 14 boîtes de 6 œufs le mois suivant.
Ça fait beaucoup d'omelettes.
En fait, il fait une cure de protéines. Et là, tout le monde se dit, oh là là, mais il est en train d'essayer de se muscler pour essayer de casser les barreaux, de passer. Donc on l'alerte, on lui dit, attention à votre cholestérol, là, il faudrait peut-être diminuer. Là. Il y a une intervention. Donc il est très surveillé, très suivi. Et effectivement, je ne sais pas si c'est un choix qu'il va faire ou si c'est l'administration qui, d'une certaine manière, a gagné. Mais en tout cas, il va faire le. Il se trouve qu'au final, il va s'assagir. Et je crois que le fait de devenir père, de devenir papa, va le transformer d'une certaine façon. On le verra bien quand il sortira. Mais cette 2025, c'est demain. Mais faut revenir à 2004, 2003 au moment de son arrestation. Quand je veux dire, c'est pour se figurer pourquoi ces gars. Rêve de s'évader, c'est quand vous avez 30 ans, on vous dit vous allez sortir à 50 ans, ça fait quelque chose. C'est-à-dire que vous avez 20 ans à faire là-dedans.
Oui, c'est la raison pour laquelle... Dans la tête, ça marche pas.
Voilà, ça marche pas, et c'est la raison pour laquelle tous ces grands voyous rêvent de l'évasion. Après, entre le rêve et la réalité, tout le monde n'accomplit pas ce rêve. Lui, il l'accomplit. Ouais. Donc, d'une certaine façon, il a inscrit son nom dans le who's who du banditisme en très haute place. Et voilà.
Et justement, sur ce point, Frédéric Ploquin, je vais vous citer ce qu'il a dit, une petite citation de Ferrara. « Jusqu'en 2008, j'avais encore de hautes ambitions. » Alors ça, il faut traduire des envies d'évasion, de braquage, de recommencer, sans doute dans le milieu. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose. On peut le croire, Ferrara, là, il est. Il a l'air d'être sur la pente où il a envie vraiment de tourner la page.
Je suis pas avec lui dans la cellule.
On n'est pas dans sa tête, évidemment.
Ni dans sa tête, mais a priori, effectivement, de toute façon, il avait intérêt à montrer. Cette figure-là, ce visage-là, s'il voulait sortir un tout petit peu plus tôt, il pouvait pas continuer à dire, mais moi, il va pas dire publiquement, moi j'ambitionne encore de devenir, d'inscrire mon nom dans les tablettes et de défier. Non, il peut pas faire ça. De toute façon, il peut pas faire ça. Et puis il a vieilli. Je veux dire, quand on arrive à 50 ans, on n'est pas aussi agile dans la cavale, dans les braquages, c'est pas aussi facile de vivre cette vie qu'on a vécue quand on avait 20, 30 ans, où on court tout le temps. Où on...
Qui plus est, il a plus aussi les contacts, je suppose, qui sont peut-être un peu dissolus.
Il se trouve que dans son équipe, effectivement, aussi bien ses frères sont tombés pour d'autres raisons.
Les générations ont changé.
Les voyous qui l'ont aidé à l'époque sont tous faits de la prison, des années et des années de prison. Et ceux qui sont sortis ont essayé de passer à autre chose. Donc effectivement, il y a le banditisme a changé, a basculé aujourd'hui. On n'est plus dans cette époque-là.
Encore une question, la dernière question de cette heure du crime. Frédéric Ploquin, vous qui connaissez très bien ce milieu des voyous, des grands bandits, c'est rare d'avoir un braqueur de cette envergure, j'allais dire aussi charismatique.
Écoutez, il y en a eu dans l'histoire, dans les années 80, 90, je pourrais vous citer des dizaines de noms, il y a eu des figures comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de braquage de fourgons blindés, tout simplement. Il n'y a plus de braquage de banque. Il n'y a plus que des millionnaires, des stupéfiants, des gens qui gagnent leur vie en trafiquant des produits stupéfiants. C'est ça aujourd'hui le grand banditisme. Ouais. Donc ça a complètement changé d'allure de visage. Ce sont plus des soldats, ce sont des commerçants qu'on a face à nous maintenant dans le grand banditisme. Et donc, il n'y a aucune chance pour que ces individus fasse la une des journaux à cause d'actes de ce type-là qu'on peut estimer relativement courageux. Parce qu'il faut du courage pour s'évader de cette façon-là. Faut du courage pour braquer...
Du
panache pour braquer un fourgon blindé qui circule dans la rue avec 20 millions d'euros à l'intérieur. Donc il y a eu une vraie évolution, transformation du banditisme et d'ailleurs des évasions de prison aujourd'hui, à part Redouane Faïd récemment, il n'y en a plus énormément.
Non, c'est vrai.
C'est vrai que l'administration a mis le paquet pour protéger, pour fermer, pour mettre des filins, pour voilà. Mais il n'y a plus ces évasions par hélicoptère, ça fait un moment qu'on n'en voit plus.
Ferrara, le nom reste dans l'histoire du crime, évidemment. Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir été l'invité aujourd'hui de l'heure du crime. Je rappelle le titre de votre livre, Ils se sont fait la belle, réédité aux éditions de la Mécanique Générale. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.